Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 546, noté dans vos tablettes. Un Champ Libre du mois de février, troisième mercredi du mois, donc émission spéciale invitée avec Carole.
Bonsoir.
Et ses choix musicaux et discographiques.
Contesté ou non, on verra.
Voilà, on verra. Jo.
Bonsoir.
Et son cinéma.
Absolument.
Voilà. Un bon film.
Fidèle au poste. J'espère. Oui. Ouais. Pour moi, oui, en tout cas.
Voilà. Et Damien, le hurleur.
Qui va
nous parler de quoi aujourd'hui?
De métal industriel.
D'accord. Et puis Laurent, lui, est toujours à la technique, aux manettes. Et on commence ce numéro de Champ Libre avec un titre d'un album d'un groupe américain qui s'appelle The Decemberist. Alors je ne sais plus le combientième disque il s'agit. En tout cas, celui-ci s'appelle What a Terrible World, What a Beautiful World. C'est sorti juste avant les événements de début d'année. C'était quand même assez difficile de récupérer un album comme ça, dont le titre est Quel monde terrible, mais c'est quand même un monde merveilleux. En parenthèse, le disque, lui, l'est, merveilleux. Très, très difficile de faire des choix dans cet album. Donc j'en ai fait un, c'est mon 49.3 à moi. Ce titre s'appelle Easy Come, Easy Go. Easy Come, Easy Go, The Decemberist. Vous l'avez écouté, cet album?
Oui, monsieur. Oui. Attentivement, monsieur. Et je trouve ça très bon. Hein? Pas comme The Belle et Sébastien. Que tu ne passes pas ce soir, donc on n'en parlera pas. Mais d'accord. Non, Décemberiste, j'ai trouvé ça très bien.
J'ai pas tout écouté, mais le peu que j'ai entendu, c'était très bien, effectivement.
D'accord. Il faudra penser à faire vos devoirs complètement.
Oui.
J'ai écouté tout l'album et effectivement, il est très très bon.
Voilà.
Ah, très sérieux. Non, non, c'est
bien. Bien sûr. Décemberiste, groupe rock américain de Portland dans l'Oregon. Je lis mes fiches.
Bravo le prof.
Hein, donc un groupe qui existe depuis 2002. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à jeter dans la discographie de ce groupe-là. Élève Jo, on va parler de cinéma.
Oui, j'espère que ce ne sera pas un petit instant soporifique, mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais vous parler d'une petite rareté quand même, Charlie's Country, du cinéaste australien Rolf De Heer, qui est assez, assez rare quand même. C'est son 15e film et qui, là, pour le coup, écrit conjointement avec l'acteur principal, car le Charlie du titre, c'est David Gulpilil, qu'on a déjà vu sans le savoir, en fait, à plusieurs reprises. C'est un acteur aborigène formidable, remarqué pour la première fois dans Walkabout de Nicholas Rugg, et que l'on a aperçu depuis dans des films ayant marqué la mémoire collective familière, comme Crocodile Dundee, je pense que, voilà, Australia, Jusqu'au bout du monde, ou La dernière vague.
Ouais. Non, je...
Et voilà, non mais...
Oui, mais non, mais il y en a même deux, je crois.
Même trois.
Trois,
voilà, donc Le Pays de Charlie, ou comment un titre d'apparente douceur véhicule à travers une sourde mélancolie un sentiment de perte insondable et irrévocable, en l'occurrence celle de la disparition des terres ancestrales aborigènes. Charlie est donc un vieux de la ville qui, avec ses compagnons d'infortune, s'en sort bon gré mal gré, prend la vie avec une apparente légèreté, mais qui enfouit une grande colère envers ce gouvernement australien qui les prive de leurs terres, de leurs traditions, de leur liberté. Ras-le-bol de ces blancs qui appliquent leurs lois en toute impunité dans cette communauté isolée au fin fond de Arnhem. Charlie décide alors de se rendre dans le bush pour faire comme ses ancêtres, vivre en communion avec la nature, ses habitants. Mais, vous le savez, rien n'est jamais simple. S'en suivent perte identitaire, alcoolisme, arrestation, puis enfin... et note plus positive, transmission de savoir et de tradition. Donc pour le réalisateur et son acteur, dans le personnage de véritable alter ego, le but était de raconter une culture millénaire interrompue par la culture blanche, et malgré un sujet grave, Charlie's Country est un film où l'on rit beaucoup, le rire étant une composante même de la culture aborigène, une constante impression de légèreté, d'insouciance prédomine dans ce film où l'absurdité de la cohabitation entre les blancs et les noirs nous est dépeinte et où les aberrations policières et administratives ne versent jamais dans la surenchère documentaire. Cette mise à mort culturelle, progressive mais certaine, est filmée avec pudeur comme une résistance, certes vaine, mais malicieuse d'un vieillard à qui on ne la fait pas, qui semble résigné à la perte des traditions des siens, mais qui se bat pour exister et les faire encore perdurer. Donc c'est un film sobre, d'une grande dignité. Je retiens quand même une personne, donc cet acteur, David Gulpilil, qui de par son visage, son charisme, sa personnalité nous reste, lui, très très longtemps en mémoire. Et à noter que Rolf De Heer a déjà utilisé comme acteur David Gulpilil à deux autres reprises, hein, The Tracker, déjà sur la culture aborigène, et surtout Dick Hanway, 150 ans, ses trois épouses, qui a la lisière entre la fiction et le documentaire, et toujours avec cet acteur-là, et qu'on trouve en DVD, ce qui est assez rare chez Rolf De Heer.
Oui, Rolf De Heer, apparemment, c'est quelqu'un... On trouve un film sur 3 ou 4.
Ou même un film sur 10, parce que je crois qu'il n'y a que 3 films qui sont disponibles aujourd'hui en DVD. Donc le Dick Hanway 150 lance. Il y a Bad Boy Bobby, qui est pour le coup une image un peu plus fidèle au cinéma de Rolf De Heer, parce que c'est vraiment un cinéma alternatif très étrange. Et là, pour Charlie's Country, il revient un petit peu à une veine plus classique, légère mais classique. Et du coup, ce film-là sera disponible en DVD. Il n'est pas resté longtemps en salle, malheureusement, mais c'est vraiment un film à découvrir et très beau. Il y a des scènes juste sublimissimes. Et le film, dans son ensemble, tient très très bien et fait preuve d'une grande dignité, en tout cas.
J'ai lu, je sais plus trop où, je suis en train de rechercher. J'ai lu qu'en fait, le film a été construit sans dialogue au départ.
Ah oui. Ah oui, complètement. C'était,
le dialogue a été improvisé.
Et voilà, en fait, il a écrit avec David Goupil sur les situations à tenir. Après, vu que l'acteur parle 6 langues, dont l'anglais, il a laissé improviser au gré des conversations qu'il devait avoir avec ses amis aborigènes, donc certaines langues qu'il utilisait pour d'autres, et ainsi de suite. Et du coup, les dialogues et tout le parler du film s'est fait dans une quasi-improvisation, quasi totale, en fait. Donc,
moi, il y a une petite chose qui m'a amusé. Pourquoi on l'appelle Charlie ? Il y a un petit truc dans le film, tu te souviens pas?
Je me rappelle plus.
Parce que son vrai nom, c'est pas un nom facile à
prononcer. Ah oui, voilà, exactement, oui.
Pour
oui,
les
oui.
étrangers, donc.
Ouais, absolument, oui. Tout à fait, oui. Il a un nom aborigène, oui, je pourrais pas le ressortir là, mais il le dit à 2 reprises, et il l'appelle Charlie pour. Puis une sorte de sentiment d'appartenance, finalement, à l'Australie et à ce gouvernement que lui réfute complètement. On l'appelle Charlie, mais. Il se reconnaît plus dans son autre nom aborigène.
Aborigène. Carole, tu l'as vu, ce film ?
Absolument pas.
Absolument pas, assez bien.
Tu le vois en DVD ?
Je n'ai pas eu l'occasion non plus.
Tu n'as pas eu l'occasion non plus, Damien.
Tu vois en DVD aussi. Alors.
Jo, un mot, une phrase ?
Oui.
Alors, je reformule. Un mot, un mot ?
Un mot, un mot. Oui, oui, ouais. Parfait.
Un mot, ouais. De 3. Ouais. Voilà. Fiction.
Presque. Quasi documentaire, quand même.
Voilà, un mot.
Oui, bah écoute. Hein,
c'est... 3, bon. Tu m'as dit 3. Donc,
comédie.
Un petit peu. Comme je disais, c'est un film où on rit
au
beaucoup.
Début.
On rit beaucoup parce que s'il y a beaucoup de situations qui peuvent s'avérer dramatiques, qui sont désamorcées par la personnalité du personnage. Par plusieurs situations cocasses, donc c'est désamorcé. Donc c'est pas vraiment une comédie, c'est disons un drame léger, on va dire.
Mmh. Si la première partie du film est relativement cocasse.
Oui. Notamment à travers les scènes de chasse, en fait, où ils partent chasser le buffle avec deux canons sciés sur le capot de la voiture, ils sont arrêtés. Et ils sont contents parce que finalement les flics gardent le buffle et ils sont contents parce que le buffle va empester le commissariat pendant. Donc il y a des scènes vraiment sympas. Puis même le rire, à travers le rire de Charlie, il a un rire qui est très communicatif. Il a un rire qui prend des envolées à chaque fois qu'il rigole, qui semble forcé. Et puis en fait, c'est un rire très très drôle et du coup, on se met à rire avec lui en fait finalement. Donc,
ok. Merci pour le mot. Nostalgie.
Oui, absolument. Oui, nostalgie d'une culture. Oui, complètement.
Progrès.
Pas vraiment, non. Pas vraiment.
Pour qui ?
Pour personne.
Pour personne.
Progrès pour personne, ni pour l'Australie, ni pour les civilisations, voilà.
Mais inéluctable quand même.
Oui, inéluctable quand même. Et même si la transmission de savoir est là, le film reste malgré tout sous couvert d'une légèreté assez pessimiste pour cette culture.
Ça rappelle d'autres histoires, hein, la conquête de l'Ouest américain.
Américain, oui, avec les Indiens,
c'est
tout
un
à
peu
fait.
Le
oui,
type
complètement. Oui, complètement.
Merci Jo, donc c'était la chronique de
Charlie's Country. Country, le pays de Charlie, The Rough Deer, avec, et j'insiste, David Goupil, fabuleux, qui a eu un prix à Cannes, qui n'a pas pu se déplacer à Cannes, qui n'a pas voulu, parce que les réunions pour la cause aborigène importaient plus, ce que je comprends. Mais très très grand acteur, très très grand acteur.
Très bien, donc écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez voir le Charlie's Country.
En DVD pour le coup.
En DVD aussi. Bientôt. Il est sorti, ça y est.
Non, il sort bientôt dans 2 mois, 3 mois. Peut-être.
Ok, une pause musicale, c'est comme ça qu'on dit, un titre du groupe Motorama. Carole, ça te parle ? Motorama, groupe russe.
D'accord.
Groupe russe qui en est à son 3e album. Groupe formé en 2005, premier album s'appelait Alps, ce qui ne signifie pas Alpes. Le 2e Calendar, le 3e vient de sortir, il s'appelle Poverty. Et c'est un groupe hyper intéressant. qui prouve que les Russes ont dû écouter la cold wave anglaise, en particulier Joy Division.
На здоровье.
Motorama, c'est le nom du groupe, un groupe d'origine russe, le titre Heavy Waves, l'album Poverty, et le groupe est en concert à Lyon au mois de mars.
C'est vrai que ça sonne très Joy Division.
J'en reparlerai. Oui, c'est très...
Ça aurait été plus drôle s'ils chantaient en russe, je pense.
Très cold wave.
Du coup.
Ouais, peut-être.
Ça me fait un peu penser à Wong Chung aussi, le groupe britannique en fait des années 80, très new wave, voilà. Mais c'est des parentés en fait.
Mais c'est un groupe qui marche, hein, qui a du succès. Il y a apparemment un certain engouement ces derniers temps pour un retour à la musique, au son des années 80. On n'a pas arrêté de se moquer du son des années 80. Il est de retour.
Et le D-Nage.
Hein, le voilà. Tiens, Carole,
c'est à moi. Mais c'est merveilleux. Ce soir, on va s'intéresser aux Two Gallons. Nous avions quitté le prodigieux duo guitare-batterie en 2012 avec l'excellent The Bloom and the Blight, chroniqué dans Champ Libre et mis à l'honneur en favori. Les Californiens sont de retour en ce début février avec leur cinquième album, We Are Undone. C'est donc avec un plaisir que votre chroniqueuse préférée vous en fait un petit topo. Léger rappel wiki pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de ces individus. Les Two Gallons se composent de Tyson Vogel à la batterie et l'Adam Stevenson à la guitare. Le nom du groupe fait référence au titre d'une nouvelle de James Joyce publiée en 1914, The Dubliners. La trentaine révolue, ils évoquent comme influence des artistes tels que Bob Dylan, Nirvana ou encore Arthur Rimbaud. Leur terrain de jeu se situe dans l'univers du rock folk teinté de blues. Bien loin des clichés californiens, leur musique se rapproche plus des comptines sudistes, contant les drames de la jeunesse d'une Amérique profonde. L'alcoolisme, les malheurs en amour, la mélancolie sont narrés sur un rythme folk électrique. Chaque chanson possède son univers, raconte son histoire portée par la voix rocailleuse et puissante d'Adam Stevenson. L'album s'ouvre sur le titre « We Are Undone », quelques accords de guitare graves et purement sudistes, provoquant une sensation de poussière dans la bouche. L'enchaînement se fait au bout d'une minute et toute la puissance des Two Gallons se fait sentir. Incidental et Fool Like Us continuent dans la lignée sans surprendre, la rythmique et la mélodie restent agréables, bien que sans grande originalité. Il faut attendre la superbe Invitation to the Funerals pour confirmer une évolution et une légère prise de risque. Le piano fait son apparition et apporte une notion de dramaturgie et de poésie qui ne laisse pas indifférent. Le chant d'Adam s'en trouve d'autant plus mis en valeur, puisque ce dernier s'adapte aisément à la magie de l'instrument. S'ensuit le titre phare de l'album, le bluesy Some Trouble, ayant pour intro un roulement de batterie, suivi d'un riff de guitare annonçant la dernière heure d'un condamné. Ce n'est pas seulement la voix d'Adam qu'il faut retenir, mais la puissance de Tyson Vogel, batteur ultra doué dont la frappe puissante et précise insuffle un pouvoir chamanique à ce titre envoûtant. My Man Go et Cathy Crowley, référence à Cathy Crowley, interprétée entre autres par Karen Dalton, viennent adoucir l'atmosphère juste avant l'intense et électrique Murder the Season, The Age Nocturne. L'album se termine sur le délicat There is so much I don't know, sur lequel Adam troque une nouvelle fois sa guitare pour le piano, histoire de montrer que les Two Gallons ont plus d'un instrument à cordes dans leur sac. Donc voilà, je pense que c'est un très bon album, malgré le fait qu'au tout début, il y a eu un peu un copier-coller avec leur avant-dernier qui était très très bon. En écoutant avec un petit peu plus de profondeur, on se dit effectivement il y a une petite évolution et ils essayent de passer la barre du j'envoie du lourd et j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus mélodieux, c'est un peu plus bluesy.
C'est un groupe qui, avant que tu m'as fait découvrir il y a...
En 2000. 12.
Déjà,
ouais.
qui effectivement faisait partie coup de cœur de l'émission. C'était un groupe qui avait déjà une histoire avant le précédent album. C'était un groupe qui, paraît-il, sur scène, déménageait sacrément, une sorte de Black Keys survitaminé.
Ouais.
Sauf qu'ils n'avaient jamais réussi à faire un album qui retranscrivait cette chose-là, ce qui était le cas dans l'album précédent. Là, apparemment, ils essaient de lever le pied.
Alors, attention, parce que là, c'est vrai qu'ils sont légèrement comparés aux Black Keys, mais les Black Keys,
parce qu'ils sont deux.
Voilà. Parce qu'ils ont une tendance bluesy. Par contre, c'est vrai que c'est les Black Keys au niveau du début, pas les Black Keys de maintenant, qui glissent un petit peu plus sur les Kings of Leon pour le coup.
Ouais.
Donc,
ne tombons
pas dans le piège, ça reste un très bon groupe, on a beaucoup de sincérité dans leur travail, dans leur musique, donc à surveiller, et surtout si vous le pouvez, aller le voir sur scène, je pense que c'est vraiment une super belle expérience.
En tout cas, bon disque.
Qui s'appelle... Bon disque, et l'album s'appelle We Are Undone. Et on va juste écouter un... Est-ce que les garçons ont écouté
les garçons, là ?
Oui, moi, j'ai écouté, ouais.
Damien, il fait... Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça bien, je trouve ça... Alors, j'ai pas écouté le précédent, donc... Mais j'ai trouvé ça plutôt platant, plutôt sympa.
T'es pas chant libre, toi.
Tu mens, je te l'ai prêté, en plus.
Ouais, bon.
Non, il est
Damien...
là.
Non, Damien,
c'est
tu l'as écouté ?
Non.
Tu as écouté le Two Gallons ?
Non.
Rien du tout.
Eh ben, c'est le moment d'écouter un titre.
Alors moi j'ai choisi Some Trouble, c'est vraiment le titre qui est sorti à la première écoute de l'album. Donc Some Trouble, The Two Gallons. We'll be right back. vient d'écouter Two Gallants avec Some Troubles tiré du dernier album We Are Undone. Et à présent, on va s'intéresser plus à un album qui ne manquera pas de marquer les esprits, El Matador de Gas Combs et la surprise de ce début d'année. L'ancien leader de Supergrass nous fait don d'un nouvel album somptueux et exigeant. Son premier essai en tant qu'artiste solo n'avait pas défrayé la chronique. Bien que respectable, il s'est gentiment noyé dans la masse grouillante des disques pop-rock un poil électro. Pour notre plus grand plaisir, Gaz persévère et signe un deuxième opus inspiré aux arrangements fouillés et farfouillés. Seul maître à bord ou presque, il enregistre chaque instrument, excepté quelques lignes de batterie sur 2-3 titres. L'aventure commence sur Buffalo, brillant mélange d'électropop avec juste ce qu'il faut de grandiloquence pour amener une envergure théâtrale à l'ensemble. Car c'est bien de spectacle dont il s'agit, car Gaz fait référence à la corrida et implore son Buffalo de l'achever sous une série de métaphores. 20/20 vient confirmer la densité et la maîtrise de deux univers, créant une harmonie parfaite entre la voix chanteresse de Combs et la puissance des arrangements électro. Je ne peux cependant m'empêcher d'évoquer Radiohead, époque Hell to the Thief, à l'écoute de ce titre. L'urgence se fait ressentir sur English Rose avec une symphonie de bidouillages électro accompagnée de quelques dissonances. The Girl Who Fell to Earth nous charme par sa délicatesse, tandis que Détroit s'invite sur un registre plus gospel, avec son refrain généreux teinté de cœur bienveillant. Mais l'apothéose arrive avec Seven Walls, titre aussi envoûtant que déchirant. On se laisse allègrement transporter par ses nappes électro-rock, renforcées par le chant bouleversant de Gaz Combs. Celui qui fut l'un des leaders de la Britpop avec Blur et Oasis s'offre une seconde carrière et place la barre à la hauteur de son talent. Sir Gaz propose un album inspiré, vibrant, totalement enivrant et créatif. Il a su concilier efficacement électro, pop-rock et cœur gospelisant avec juste ce qu'il faut de grandiloquence. Il s'impose désormais comme mélodiste de talent. Il a su s'affranchir du fantôme de Supergrass tout en gardant ses étincelles de génie qui ont fait le succès de ce groupe qui a marqué l'histoire de la Britpop. Malgré un premier album tombé aux oubliettes, l'artiste ne se laisse pas abattre et endosse le costume de magicien des temps modernes pour affronter d'un seul homme l'impitoyable industrie du disque. El Matador, c'est lui. Et comme il le dit dans le dernier titre éponyme, « Le combat le plus difficile est celui qui se mène seul, je combattrai comme un matador. » Guy, qu'as-tu pensé de ce magnifique album ?
Alors, moi je trouvais que les derniers albums de Supergrass tournaient un petit peu en rond. J'avais été extrêmement déçu par le premier album solo de Gaz Combs. Mm. Donc j'écoutais celui-ci en freinant des quatre fers.
En freinant des oreilles.
Voilà, en freinant des oreilles. Et j'étais surpris. Alors... surpris parce que j'ai découvert qu'en fait Gaz Combs avait vieilli, c'était plus un gamin de 16 ans qui fait de la Britpop. J'ai découvert que ce mec-là avait dû beaucoup écouter les Kings, etc. Qu'il était digne de rejoindre les rangs des compositeurs anglais de la musique pop avec des textes, avec des arrangements. Un peu trop d'arrangements quand même parfois. Voilà, ça coule un peu. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'a amusé énormément. J'ai lu une interview du bonhomme dans une revue Inrecuptible et il explique qu'il a des gamins et que ces gamins écoutent The Boys, Star Academy anglaise, etc. Que ces gamins n'ont jamais entendu parler de Supergrass, qu'il a été obligé de leur faire une cassette pour leur faire écouter de la musique dans la voiture, et que la musique qu'il leur fait écouter, c'est David Bowie, Neil Young, les Beatles. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques minutes avec Damien, où on me disait, tiens, on n'écoute que des vieux trucs. Et, voilà. Moi, je pense que dans sa musique, il y a également du Wilco et du Beck. Pour ceux qui connaissent l'émission, on sait de qui je parle. Voilà. Donc la chose que j'ai à dire... agréablement surpris, un peu trop d'arrangements, il faut peut-être l'écouter.
Moi, j'ai trouvé que c'était ce qui faisait justement le charme de cet album, c'est les arrangements pointus, fouillés, passés à l'extrême. Il n'est pas allé dans la facilité comme son premier album où vraiment on sait qu'il est passé à la trappe parce qu'il était mauvais, quoi. Mais là, du coup, on
c'est
se
comme,
dit qu'il a
c'est
pas
comme en pâtisserie. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux avec plein de crème, mais il y a un moment.
Mais c'est comme les Radiohead, c'est ça. C'est au début, Radiohead, ils se sont fait taper dessus juste au moment où ils sont passés à l'électro. Ça te rappelle pas quelqu'un? Donc, ils ont fait un bon vieux rock au début, et quand ils ont mis un petit peu trop d'électro dans leur musique, beaucoup leur ont tourné le dos, notamment les fans de la première, en disant c'est quoi cette merde, ils ont mis beaucoup trop de synthé. Mais c'est là où Radiohead s'est révélé. Et effectivement, moi, quand j'ai écouté le Gascon, je trouvais que c'était très pointu et très gonflé. Et j'ai trouvé que c'était un peu au niveau de Radiohead à l'époque de Hell to the Thief, qui pour moi reste un album excellent.
Et puis c'est le mélange aussi électro, pop.
Ouais,
aussi,
le mec, il sait pas.
Et gospel, oui, il sait qu'il fonctionne
c'est plus,
super bien.
C'est pas
comme Oasis qui ont continué à faire du Oasis pendant 10 ans. C'est-à-dire que le mec, il est passé au-delà.
Damien.
Bah moi déjà au départ j'ai jamais trop aimé Supergrass et la Britpop en général, donc j'avoue que j'ai pas vraiment écouté le Gascoigne.
Voilà, bah, tu seras.
Ça tombe bien, on est en retard.
on va écouter un titre.
Alors j'ai choisi Seven Walls, qui pour moi était le titre pareil qui est sorti du lot, et c'est juste limite un opéra rock, c'est très beau. Donc on écoute tout de suite Seven Walls de Gascoigne, tiré du dernier album Matador.
Let's climb up to seven walls, share a stolen thought in a parking lot. A few hours until the light, we trace out the stars, 'cause the night. With cold, the numbers barely read.
C'était Gascombs. Je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, on est d'accord là-dessus. L'album s'appelle toujours Matador. Et c'était le deuxième choix de Carole ce mois-ci. Merci, Carole. On va donner la parole, façon de parler, à Damien, qui va nous parler donc de métal.
De métal industriel.
Industriel.
On va écouter tout de suite Rammstein. La chanson s'appelle Firefly. Et elle est issue de l'album Mutter, sorti en 2001.
Qui veut dire maman, c'est ça?
Exactement.
Oh, c'est beau. C'est le deux mots que je connais.
Mama, c'est le titre de Phil Collins. Traduit, non? Mama!
Non, c'est pas ça. On enchaîne.
Voilà, c'était Firefly de Rammstein. Donc le métal industriel, ça a été créé à la fin des années 80. Ça s'est largement popularisé dans les années 90. C'est donc un son plus dur que le heavy metal, qui se rapproche donc plutôt du thrash metal, dont on avait parlé en novembre, si je ne me trompe pas. Avec donc des éléments plus électroniques qui empruntent à Kraftwerk et à un groupe allemand qui s'appelle... Je vais essayer de prononcer ça. Einstürzende Neubauten.
D'accord.
Donc, dont le leader a joué avec Nick Cave au sein des Bad Seeds.
Mm-hmm.
Donc, encore une fois, on reste dans un cadre assez européen, puisque le genre est globalement issu d'Europe de l'Est, hein, notamment d'Allemagne, avec des groupes comme Rammstein, qu'on a écouté, Die Krups, Umf, KMFDM, ou Death Stars, qui eux sont suédois. Aux USA, le genre est représenté par Marilyn Manson, qui a sorti un album récemment excellent album. Ministry, considéré comme le premier groupe de métal industriel. Rob Zombie et aussi Nine Inch Nails, avec son meneur Trent Reznor. Donc le métal industriel se caractérise par des textes assez sombres qui parlent, par exemple pour Rammstein, des rapports humains. Notamment donc le morceau titre de l'album Mutter, donc qui parle de la relation d'un garçon avec sa mère, qu'il n'a pas connue. Marilyn Manson critique énormément la société américaine, ce qui a créé de nombreuses polémiques.
Il y a eu des procès. Des procès, oui. Ils sont accusés d'avoir inspiré
des tueries,
alors qu'ils se contentent de les décrire.
Voilà. Donc Marilyn Manson, qui a beaucoup fait parler de lui, plus pour son côté subversif que pour sa musique en elle-même. Mm-hmm. Puisqu'il a aussi, sur scène par exemple, déchiré des bibles, donc, comme en guise de provocation contre la société conservatrice.
Ça, aux USA, ça pardonne pas trop. Au Vatican non plus, mais bon. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de groupes de métal industriel italien.
Et aussi, le problème de certains groupes comme Rammstein est d'avoir été accusé de nazisme uniquement à cause du fait qu'ils étaient allemands.
Parce qu'ils parlent allemand. Hein.
Voilà, c'est un groupe germanophone. Et ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Notamment dans les premiers albums où on les accusait, par exemple sur la pochette, de refléter une imagerie nazie lorsqu'ils s'affichaient torse nu sur une pochette.
Choses qui ont été reprochées quelques dizaines d'années avant à des groupes comme Kraftwerk, qui eux aussi parlaient allemand, qui avaient un costume et une cravate souvent sur la pochette. Ouais. On a un passé qui est relativement lourd.
Et oui.
Vis-à-vis de l'Allemagne, c'est pas fini. Les relations conflictuelles entre la France et l'Allemagne. Ce qui est intéressant quand même dans ce que tu dis, c'est que ces groupes-là ne viennent pas de nulle part et qu'il y a eu un courant rock européen qui vient d'Allemagne.
Et oui.
Ce qu'on n'a pas eu, nous. Nous, on s'est contenté d'imiter les Anglais ou les Américains.
Mais l'Allemagne a une grosse scène, notamment métal, mais aussi rock, qui n'est pas négligée.
On va écouter un autre titre.
Oui, cette fois-ci, il s'agira de métal industriel américain, le groupe Rob Zombie. La chanson est tirée de l'album Hellbilly Deluxe, sorti en 1998. Et la chanson est certainement la plus connue de Rob Zombie, elle s'appelle Dragula.
Je voulais juste rajouter une petite phrase. Tu parles d'allemand, tu parles de musique rock allemande. Il y a un grand monsieur du rock allemand qui est décédé il y a une semaine ou deux. Il s'appelle Edgar Froese. C'était le leader de Tangerine Dream. Alors, évidemment, Tangerine Dream, c'était une musique extrêmement planante. Si on la rapproche de Rammstein, pas tout à fait la même chose. Sauf que avant, très très longtemps avant, c'était du rock sacrément puissant, hein, qui était joué en 67. Allez, on écoute le Rob Zombie, Dragula. C'est un jeu de mots.
Oui. En fait, Rob Zombie.
C'est une coquille.
Rob Zombie utilisait beaucoup l'imagerie des films d'horreur, notamment sur scène et aussi dans ses albums.
We'll be right back.
Et oui, vous êtes dans Champ Libre, sur les ondes de Couloir FM. Tout est possible, Damien, même Rob Zombie dans Champ Libre, sur Couloir FM. Et tout galant, c'est... Voilà. Il me reste quelques minutes pour vous parler soit d'un livre, soit d'un film, soit d'un disque. Ce mois-ci, j'ai choisi un disque que je garde sous le coude depuis le mois de novembre-décembre. Il s'agit de la réédition 45e anniversaire, encore une, de l'album numéro 3 d'un groupe qui s'appelle le Velvet Underground. Alors, tout le monde a entendu parler du Velvet, ça c'est le troisième album. C'est plus du tout le même groupe que dans l'album À la banane avec Nico. Hein, ce sont plutôt les mêmes musiciens. Lou Reed a pris définitivement le contrôle de la machine. Le deuxième album, lui, était très très noir, White Light, White Heat, hein, c'est la drogue poussée à son paroxysme. Le troisième est carrément cool, il s'écoute dans un canapé, d'ailleurs on l'appelle l'album canapé, parce qu'il y a les musiciens sur un canapé. Alors c'est un truc qui s'écoute gentiment, Étienne Daho a repris, a traduit ses chansons, c'est très très cool, sauf que les textes sont extrêmement pervers. La musique est douce, mais elle parle de déviance, elle parle de drogue, elle est toxique sous des airs charmeurs. C'est ce qui fait tout le charme de ce groupe qui s'appelle le Velvet Underground. Alors, pourquoi avoir laissé tomber une musique électrique, bruitiste, comme celle de John Cale du deuxième album? Eh bien, Lou Reed le dit. Il dit « J'en suis arrivé à un point où je préfère les jolies choses plutôt que la distorsion parce que l'on peut être plus subtil et apporter ce calme dont beaucoup de gens semblent avoir maintenant besoin. » Voilà. Ce disque-là, c'est quelques milliers de groupes qui se sont formés dans les quelques dizaines d'années qui ont suivi. Pratiquement 80% de la musique rock d'aujourd'hui est né de cet album-là.
Pour la petite anecdote, Lester Bang cherchait cet album dans tous les appartes et toutes les maisons dans lesquelles il allait. Et s'il ne trouvait pas cet album dans les discographies, il partait. C'était vraiment l'album symbole et mythique.
Alors, c'est le disque que je peux écouter 10 fois de suite, les petites chansons Pale Blue Eyes, Candy Says, etc., avec les arpèges de guitare, c'est magnifique. Bon, parfois, ça pète un petit peu plus, hein, c'est un peu plus sombre, Murder Mystery. Je pense également à des chansons comme I'm Set Free, qui raconte quand même qu'à cette époque-là, c'était pas aussi simple que ça d'être libre. Lorsqu'on voulait avoir les cheveux longs, lorsqu'on était un mec qui ressemblait à une fille et inversement. Voilà. En tout cas, vous allez me dire encore une réédition, encore la nostalgie. Ben, je vais terminer avec une phrase de Monsieur Louride. Louride a dit « Je déteste la nostalgie, sauf quand c'est la mienne ». Je remercie mes invités pour leur participation à cette émission. Merci Jo.
Merci.
Merci Carole. Merci Damien. Merci Laurent pour la technique. Et on se sépare avec un titre de ce troisième album du Velvet Underground, réédition 45e anniversaire. Ça existe en gros coffret à 150 € pour les gens qui ont les moyens, mais également un double CD avec un concert. C'est rare, hein, les concerts enregistrés du Velvet. Et le titre que j'ai choisi, bah, c'est Blue Eyes. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye bye. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up.